Ouvrir vos Bibles dans 1 Corinthiens 13, versets 1 à 13. Si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Les prophéties disparaîtront. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. En effet, nous connaissons partiellement et nous prophétisons partiellement. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, de manière peu claire. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai complètement, tout comme j'ai été connu. Maintenant, donc ces trois choses restent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Cette prédication que je vais vous apporter ce matin est de Timothée. Il m'a demandé, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, mercredi, « Oh, tu vas voir, c'est facile, je te passe une prédication, tu vas pouvoir la lire. » Ok, Tim, allez, si tu veux, on va essayer. Puis après, j'ai commencé à la lire. Puis j'ai dit quand même, il l'avait bien écrite, mais pour lui. Elle n'est pas tout à fait adaptée à ce que n'importe qui la lise. Donc je l'ai un peu repris. Voilà. Et puis finalement, elle m'a parlé aussi. J'espère qu'elle vous parlera ce matin. Elle va porter sur ce texte très connu de la première épître de Paul aux Corinthiens. Et je crois que ce texte est parmi les textes bibliques celui qui est le plus lu lors des mariages. Et pour nous, chrétiens, qui cherchons à imiter Christ au quotidien, il est pourtant sans doute un des plus confrontants. La lecture de ce texte si beau, si poétique, nous fait à la fois rêver d'un monde meilleur, de relations entre les individus magnifiques, et en même temps nous amène, si nous ne nous tenons pas fermement dans la grâce, à nous décourager. Mais je veux commencer par vous dire, haut les cœurs, ne vous découragez surtout pas. Ne pleurez pas sur vous-même. Personne ne peut prétendre tenir à ce texte. Personne ne peut avoir l'orgueil de brandir ces versets superbes au visage des autres pour accuser. Face à ces propos de l'apôtre Paul, eh bien nous sommes tous minuscules. Mais puisque nous avons travaillé ensemble à vivre dans la liberté en Christ, je vous appelle au nom du Seigneur Jésus à oser regarder en face ces exigences de l'Évangile sans frémir. Car Dieu ne vous aimera ni plus ni moins selon que vous réussirez à appliquer ces versets dans vos vies. Regardez ces versets avec paix, curiosité. Ayez envie de les comprendre et ne vous laissez pas intimer par Satan, qui voudra arracher de votre cœur la paix, la joie, la confiance. Ainsi, je vous répète ces paroles de Jean. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur, il connaît toutes choses. Si alors que vous essayez d'aimer en acte et en vérité, votre cœur vous condamne, Dieu est plus grand que votre cœur. Si alors que vous allez vous efforcer de vivre un Corinthiens 13 auprès d'un de vos proches, c'est la colère qui vous emporte, c'est l'orgueil qui passe en premier. Si à ce moment, le diable vient vous enfoncer la tête dans l'eau en vous tournant la tête de versets bibliques bien choisis qui vous mineront le cœur. Et si à ce moment votre cœur vous accuse, Dieu sait toute chose et il est plus grand que votre cœur. Mes amis, je trouve que ces paroles sont un véritable baume pour guérir nos peurs. Elles sont du miel que je ne me lasse pas de sucer avec délice, car elles me procurent la paix. Et fort de cette paix retrouvée, nous lisons 1 Corinthiens 13 avec les yeux ouverts et le cœur ouvert sans honte de ne pas être à la hauteur de ces quelques lignes. L'amour comme mesure de toute chose. Si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance. Si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Les chrétiens de Corinthe avaient la conviction d'être des super-croyants, parce qu'ils pratiquaient avec passion les dons spirituels que l'Esprit de Dieu avait répandus sur leur communauté. Ils avaient comme critère de maturité spirituelle le spectaculaire des délivrances ou des miracles que l'Esprit de Dieu opérait en leur sein. Et lorsque nous lisons l'épître de Paul aux Corinthiens, nous comprenons qu'entre eux, une sorte de compétition pour être le plus spirituel était lancée. Qui parmi eux en sait le plus ? Qui parle le plus de langues étrangères pour annoncer la gloire de Dieu aux nations? Qui d'entre eux peut expliquer la doctrine de Dieu comme personne? Lequel de ces chrétiens aura le courage de devenir un martyr et d'abandonner toute sa fortune pour les pauvres et de livrer jusqu'à son corps même? De la puissance spirituelle jusqu'au renoncement au monde, en passant par la foi la plus grande, Paul touche du doigt les domaines de la spiritualité qui nous paraissent les plus confrontants. Mais Paul écrit pour renverser leur échelle de valeur et poser à la place une nouvelle échelle de valeur qui est celle de Dieu. L'amour est la mesure de tout. Et en fait, par ses propos, Paul veut enlever aux chrétiens de Corinthe une illusion. La puissance spirituelle, la foi, la connaissance théologique, le zèle, le renoncement aux richesses du monde, toutes ces choses sont vaines, vanité, creuses et stériles sans amour. Il n'y a que l'amour qui soit une motivation vraie, qui va donner du sens à ce que je dis, ce que je fais, ce que je donne de moi. Elle est la seule raison d'agir qui ne gâche pas tout. Et elle est la seule chose qui atteint le monde pour le convaincre que notre Dieu est vivant. Car c'est bien à l'amour que nous témoignons les uns pour les autres, que tous vont comprendre que nous sommes des disciples de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. L'amour qui dure éternellement. Ensuite, pour donner plus de sens et de puissance à ce qu'il enseigne, Paul nous confronte à une autre vérité biblique, l'éternité. Nous sommes dans un monde de passage où tout ce qui nous entoure va être soit détruit, soit complètement renouvelé. L'amour ne meurt jamais. Les prophéties disparaîtront, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Maintenant donc, ces trois choses restent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Mais l'amour dont Paul parle, l'amour exprimé par le terme grec agapé, celui qui vient de Dieu et que nous voulons répandre autour de nous, n'a pas de fin. La foi étant la ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. La confiance dans un Dieu qu'on ne voit pas. Cette foi va disparaître dès que nous verrons Dieu. Notre espérance de la vie après la mort, du monde renouvelé et du jugement ne seront plus rien lorsque ces choses se seront produites. Nous n'espérerons plus puisque nous les aurons vécues et reçues. L'amour de Dieu, lui, est éternel. Et nous, qui déjà goûtons à l'amour de Dieu, nous voulons vivre de cet amour dès maintenant. Mais nous vivrons aussi éternellement cet amour. Aussi, cultiver la foi est utile pour un temps. Cultiver l'espérance des choses à venir est utile pour un temps. Mais cultiver l'amour de Dieu dans ma vie et le répandre autour de moi est utile à jamais. Il y a des choses périssables que nous mettons au réfrigérateur pour qu'elles se conservent un temps. Et il y a des choses qui ne sont pas périssables et que rien ne semble altérer, les diamants, l'or et d'autres choses précieuses. L'amour, dans le sens agapé, est bien la chose la plus éternelle qui soit aux yeux de Dieu. Et elle devrait l'être pour nous aussi. Encore une fois, je veux vous citer ce passage de Jean. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. On est toujours interpellé par ce passage. car on nous a toujours appris que nous devions donner notre vie à Christ, parce que Christ a donné sa vie pour nous. Et je sais qu'il y a bien des passages du Nouveau Testament où il est écrit cela. Mais ici, Jean nous dit, puisque Christ a donné sa vie pour vous, vous donnerez votre vie pour les autres. Ainsi, vivre pour Dieu, c'est bel et bien vivre pour son prochain. L'amour de Dieu ne doit pas être reçu de Dieu pour être rendu à Dieu. Il est reçu de Dieu pour être donné aux autres. Mais ces choses-là, vous les savez déjà, non ? Comme je l'ai déjà dit, ce passage est très connu et souvent cité dans les prédications du mariage. Et pourtant, il y a quelque chose d'autre dans ce qu'écrit Paul. Voici la question que l'on a posée à Timothée lors d'une réunion de différents pasteurs. C'est bien ce texte, mais à quoi cela sert-il un amoureux ? Vous pouvez remplacer amoureux par quelqu'un qui m'aime comme Christ m'aime, si vous n'êtes pas marié. Ils étaient toute une bande de pasteurs à qui cette question fut posée. Et ils y sont allés de tout leur cœur pour donner des réponses bibliques. L'amour inconditionnel, le choix électif de Dieu, l'alliance de grâce, refléter Christ et l'Église, etc., etc. Et l'orateur souriait devant leur érudition et acquiesçait toutes leurs réponses, en soulignant qu'elles étaient vraies et bibliques, sans être celles qu'il attendait. Mais ensuite, il leur a donné sa réponse qui, toute bizarre qu'elle est, leur a beaucoup parlé. Un amoureux sert à quitter l'âge de l'enfance sans regret. Vous imaginez que toute la bande de théologiens qu'ils étaient a été surprise par cette réponse, très pragmatique et somme toute assez peu spirituelle. Et puis il a repris ce texte et leur a lu comme je vous l'ai lu. Et il a pointé du doigt le passage qu'on ne commente jamais. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. Paul associe complètement cette réflexion qu'il a sur le fait de quitter l'enfance et son enseignement sur l'amour. L'amour auquel Dieu nous appelle n'est pas un amour d'enfant. Il n'est pas immature, mais mature. Paul explique qu'il a dû quitter, laisser, abandonner les choses de l'enfance pour devenir un homme. Et que pour aimer comme Dieu nous appelle à aimer, eh bien il faut grandir. Nous ne pouvons pas aimer comme Dieu nous appelle à aimer en raisonnant comme un enfant. Et le couple ? Le mariage est un lieu privilégié pour expérimenter cela. L'amour de ma femme, je parle pour moi, m'a profondément stimulé pour grandir en maturité. Et je ne parle pas que de la maturité spirituelle, la prière, la lecture de la parole, le témoignage. Non, je parle de ranger la maison. Je parle de me lever plus tôt et de me coucher moins tard. Je parle de faire moins d'ordinateurs et plus de choses avec mes mains. Je parle de m'impliquer avec mes enfants plutôt que de penser à moi. Et aussi prier, lire ma Bible et vivre ma foi au quotidien. Pardon. L'amour de mon épouse m'a encouragé, m'a motivé et m'a fait désirer le fait de quitter l'enfance, de devenir un homme pour elle, de devenir son homme. Parce qu'elle, de bien des manières, travaille à m'aimer comme Christ. Comment Christ m'aime-t-il? Méprise-t-il? Se moque-t-il? Cherche-t-il le conflit? Fait-il du chantage? Met-il la pression? Soupçonne-t-il le mal chez nous? Accuse-t-il à tort? Impose-t-il ses choix? A-t-il recours aux peurs de l'autre? Christ nous aime. Et nous aimant, il reflète l'amour que Dieu a pour nous aussi. Nous savons comment Dieu nous aime en voyant Christ nous aimer. La pédopsychiatre Michèle Guédéné, lors d'une conférence sur l'attachement de l'enfant à ses parents, expliquait que l'enfant a un puissant désir de grandir, mais qu'il a un besoin vital de se sentir aimé, désiré et chéri par ses parents. Donc, si les parents parviennent à assurer l'enfant de leur amour, l'enfant va investir toute son énergie à explorer son monde, son corps et à apprendre pour grandir. Instinctivement, il n'a pas le désir de rester un bébé. Mais si ses parents l'insécurisent malgré eux, ou volontairement, l'enfant va utiliser son énergie pour attirer l'attention de ses parents et garantir de leur part un amour et une bienveillance aussi minime soit-elle. L'amour de mon conjoint dans le couple, si celui-ci m'aime comme le Seigneur, est un amour qui va me convaincre que je n'ai plus besoin de continuer de faire l'enfant pour grandir, qu'on prendra soin de moi, que l'on m'écoutera, que l'on me considérera. Vous avez déjà remarqué comme les enfants cherchent à attirer l'attention lorsque les adultes sont plongés dans de grandes conversations entre eux. Cela parce qu'ils veulent se rassurer qu'on les voit, qu'ils existent, qu'on les aime. Ainsi, certains adultes ont dû quitter le foyer de leurs parents, mais emportent avec eux de grandes craintes et de grandes insatisfactions, et apportent dans leur couple un besoin d'attention identique à celui de l'enfant. Et comme l'enfant, nous allons faire des caprices. Comme l'enfant, nous allons faire du chantage. Comme l'enfant, nous allons user nos parents par notre mauvaise humeur, afin d'obtenir ce que nous voulons. Dans le couple, si les deux sont des enfants capricieux, les choses seront pénibles à vivre. Et n'allons pas croire que passé 50 ans, nous avons obligatoirement tout quitté de l'enfance. C'est extrêmement faux. Personnellement, en réfléchissant les choses ainsi, je me rends bien compte qu'il y a beaucoup d'attitudes et de comportements en moi que je refuse de changer, pour garder une sorte de lien avec mon passé et de ne pas quitter définitivement l'enfance. Je n'ai pas en face de moi la motivation de devenir un adulte plein et entier. Et je crois bien que mon épouse, en m'aimant comme le Seigneur de cet amour agapé, devient la source de mon courage pour devenir un adulte. Car auprès de moi, elle est le témoin du Seigneur Jésus. L'amour n'est pas un jeu d'enfant, a conclu cet orateur. L'amour est un sujet d'adulte. Les enfants ne peuvent pas aimer vraiment, ils jouent et font semblant. Ils ont besoin de tout recevoir et peinent à donner. Ils ont besoin de se rassurer et de s'affirmer. L'adulte en Christ n'a plus rien à se prouver à lui-même. Il n'a plus à garantir qu'il est aimé de Dieu, Il n'agit plus par peur de l'enfer, par peur d'être rejeté, par peur de recevoir une sanction de Dieu. Il est totalement assuré de sa valeur, car il a appris à s'aimer comme Dieu l'aime. Et il travaille à aimer son prochain comme lui-même, c'est-à-dire comme Dieu l'aime. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Dieu veut que vous deveniez des adultes. Car si vous posez la question, nous ne le sommes pas encore. Les adultes chrétiens, je veux dire. Écoutez ces passages où les apôtres du Seigneur nous font comprendre que devenir un chrétien sanctifié revient à devenir un chrétien adulte. Pour ma part, frères et sœurs, je n'ai pas pu vous parler comme à des personnes dirigées par l'Esprit, mais comme à des personnes dirigées par leur nature propre, comme à des petits-enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. D'ailleurs, même maintenant, vous ne le pouvez pas parce que vous êtes encore animé par votre nature. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas dirigé par votre propre nature et ne vous conduisez-vous pas d'une manière toute humaine? Quand l'un dit, mais je me rattache à Paul, et un autre, moi Apollos, n'êtes-vous pas animé par votre propre nature? Dans Hébreux, alors que vous devriez avec le temps être des enseignants, vous en êtes au point d'avoir besoin qu'on vous enseigne les éléments de base de la révélation de Dieu. Vous en êtes arrivé à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or celui qui en est au lait est inexpérimenté dans la parole de justice, car il est un petit enfant. Dans Pierre, débarrassez-vous donc de toute méchanceté et toute ruse, de l'hypocrisie, l'envie et toute médisance. Et comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole. Ainsi, grâce à lui, vous grandirez, si du moins vous avez goûté que le Seigneur est bon. Vous pouvez peut-être avoir l'impression d'être loin du compte. Mais je veux vous apporter un autre point de vue. Réjouissez-vous de l'ambition de votre Père céleste pour vous. Dieu, votre Papa spirituel, qui vous a mis au monde pour l'éternité, a comme projet que vous appreniez comment aimer tout le monde de manière adulte. Réjouissez-vous de l'ambition de votre Père céleste pour vous. Dieu, votre Papa spirituel, qui vous a mis au monde pour l'éternité, a comme projet que vous appreniez comment aimer tout le monde de manière adulte. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout. Il espère tout, il supporte tout. Mes amis, votre projet éternel de vie est basé sur ces paroles. Lorsque je vous reverrai dans l'éternité, après que Jésus soit revenu pour établir toutes choses, c'est ainsi que je vous aimerai. Et c'est ainsi que vous m'aimerez. Nous n'aurons plus de conflits, parce que nous serons trop sages pour tomber bêtement dans les pièges de Satan et nous monter les uns contre les autres. Car Christ nous aura transformés. parce que nos yeux seront définitivement et totalement ouverts pour voir la gloire de Dieu et comprendre l'infinie bonté de notre Père, et même sans lunettes. Réjouissez-vous et aspirez à grandir. Cet amour qui te semble impossible à atteindre, à vivre avec les autres. Je te le promets de la part de Dieu. C'est ainsi que tu aimeras dans le royaume. La question pour toi n'est donc pas de savoir si tu peux arriver à aimer comme cela ou pas, mais plutôt, quand vas-tu commencer ? Parce que la réussite n'est pas une question. C'est ta destinée éternelle. S'il vous plaît, réfléchissez à l'ambition de Dieu pour vous. L'amour décrit dans Corinthiens n'est pas à vivre comme un devoir à remplir, faute de quoi vous serez exclus. Il n'est pas non plus une condition requise pour porter le nom de chrétien. Mais tous les chrétiens ont en commun qu'ils aimeront comme cela un jour. C'est ton espérance, ton héritage, la promesse de Dieu pour toi. Aussi, je veux que vous regardiez Dieu et je veux que vous considériez toutes ces paroles, ces textes qui vous paraissent être des exigences écrasantes de la Bible. Soyez saints comme je suis saint. Soyez miséricordieux comme votre Père céleste. Soyez vainqueurs du mal par le bien. Aimez-vous comme je vous ai aimé, etc., etc. Pensez à tout cela. Et comprenez aujourd'hui que ce sont les promesses de Dieu pour votre vie. Toutes ces exigences sont aussi l'ambition de votre Père céleste. C'est son projet parental, si je puis dire. Ce sont les valeurs que notre papa veut nous inculquer à travers notre grande vie de famille. Je vous supplie de ne pas le vivre comme des conditions à remplir, mais de les espérer. Et puisque nous sommes dans la grâce infinie de Dieu, puisque le bon berger ne nous laissera pas partir hors de son troupeau sans venir nous chercher, engageons toute notre énergie à grandir et à explorer le monde. Ne passons pas tout notre temps à ne pas faire le mal, mais à faire le bien. Ne passons pas tout notre temps à expier le péché, ni à mériter la croix de Jésus, ni à la rembourser. Mais résolument, aspirons à faire surgir par nos actes, nos paroles et notre attitude d'adulte le royaume de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu, mais nous devons grandir. Amen.
C'est le moment de la prière d'intercession maintenant. Seigneur, tu as fait de nous tes enfants.